Si bose, froise, sombre,
t'as vu, t'as vu.
Il est venu le temps des cancers.
Oh, 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 regarde où tu marches quand même, hein. Oh, 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 oh.
Ah,
Polo, ça va?
Oh là 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 là, la spéléo, oh là 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 là, la spéléo.
Et je suis dans le studio de BLP Radio avec trois membres du SCCM, le Spéléo Club des Chiroquois Migrateurs. Nous avons Marie, bonjour.
Bonjour.
Nous avons Eric.
Bonjour.
Et on a Guillaume.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va.
Très bien.
Alors, on est ici pour parler un petit peu du Spéléo Club, qui fait aussi du canyoning. Alors justement, est-ce que vous pouvez m'expliquer la spéléo, le canyoning, qu'est-ce que c'est ?
Alors la spéléo, c'est un sport qui a maintenant plus d'un siècle. Il y a environ, donc justement un siècle, Édouard Alfred Martel, l'ancêtre, mis au jour la spéléo et a commencé à aller dans des cavernes, dans des grottes, des choses simples à l'époque. Donc, il descendait avec une grosse corde en chanvre, un chapeau, une bougie collée dessus, c'était vraiment la préhistoire. Donc depuis, les techniques ont beaucoup évolué, mais l'idée reste la même, c'est-à-dire aller dans le monde souterrain, dans les grottes,
aller explorer.
Alors soit explorer pour les plus aventureux, soit aller dans des grottes déjà connues avec des plans et pas de mauvaises surprises a priori.
Donc ça c'est pour la partie spéléo et il y a aussi du canyoning. Comment on pourrait définir le canyoning ?
Alors pareil, d'une manière purement historique, le canyon a peut-être, alors j'ai pas les dates exactes, mais on va dire ça a commencé dans les années 50-60, là aussi de façon relativement empirique. Les premiers descendaient des canyons, parce qu'un canyon c'est quoi ? C'est descendre des cours d'eau de montagne, on va rencontrer des cascades, ces cascades on va les descendre soit équipées avec une corde, soit carrément en sautant ou avec des toboggans. Bon voilà, c'est le côté plaisir avant tout. Et donc ça a commencé dans les années 50. D'abord, c'était des gens qui allaient en slip de bain, sans casque. Et puis au fur et à mesure, les gens se sont donc équipés avec des baudriers, avec du matériel de plus en plus technique, bien sûr avec un casque. Et puis, comme on est frileux, avec des combinaisons néoprènes.
Est-ce que justement il y a des techniques qui sont communes entre spéléo et canyoning ou des équipements qui sont communs ?
On va dire que la pratique, c'est à peu près, il y a quand même des rapprochements, on descend sur des cordes. La grande différence entre la spéléo et puis donc le canyon, c'est que la spéléo, lorsqu'on a descendu, il faut remonter. C'est rare qu'on puisse sortir, on a quelques traversées, mais généralement, c'est bien le souci, lorsqu'on se retrouve en bas, il faut ensuite remonter. Le canyon, hormis des marches d'approche, on va toujours faire que descendre. Donc, est-ce que les canyonistes sont plus sont plus feignants ? Je ne sais pas. Voilà. Après, les autres, Guillaume, as-tu un complément ?
Disons qu'au niveau spéléologie, il y aura besoin en général d'un peu plus de matériel, parce que les cordes qu'on met en place, on va les laisser au fur et à mesure qu'on descend, et on les remporte en remontant. Alors qu'en canyoning, on va réutiliser là où les quelques cordes qu'on a emportées. Donc le canyoning nécessite généralement un peu moins de matériel, même si parfois sur les marches d'approche, cela pèse très lourd.
Et là, concrètement, dans le SCCM, vous faites tous un peu des deux ou il y en a qui sont vraiment plus spéléo, d'autres qui sont plus canyon ?
Oui, on fait. Une majorité fait un peu des deux. Alors il y a ceux qui n'aiment absolument pas l'eau, donc parce que forcément c'est froid, ce ne sont pas des piscines chauffées ou des rivières bien chaudes, donc il y en a qui ont une tendance à faire de la spéléo voire même des carrières et d'autres qui font les deux parce que c'est un complément. Bon, la spéléo on est sous terre, le canyon l'avantage c'est qu'on est à l'air libre, c'est une randonnée nature, donc on peut avoir des beaux paysages, très beaux paysages avec de la végétation plus ou moins différente suivant les endroits, ce qu'on n'a pas forcément sous terre parce que c'est d'autres origines, mais la majorité, une grosse partie des membres du club essaye quand même le canyon, ont tendance même à vouloir demander des sorties d'initiation canyon pour voir à quoi cela ressemble.
Donc parlons un peu du SCCM, le Spéléo Club des Chiroquois Migrateurs. Est-ce que déjà vous pouvez me parler un peu de son historique? Quand est-ce qu'il s'est monté? Et puis aussi quand est-ce qu'il a atterri à la MJC Bobby Lapointe?
Alors il a été créé, il me semble, dans les années 70, quelque chose par là. En fait, il n'y a plus de membres fondateurs du club aujourd'hui parmi les membres du SCCM. On a quelques anciens, mais quelques dizaines d'années seulement. Depuis l'origine, le club était basé à la MJC de Chimazarin. Et suite à la fermeture de cette dernière, il y a quelques années, nous avons déménagé à la MJC de Villepont-sur-Yvette.
Et est-ce que vous avez réussi à garder quand même les membres avec ce déménagement, le noyau dur? Est-ce que vous avez perdu peut-être un peu de monde en cours de route ou retrouvé des nouveaux adhérents?
Non, on n'a pas trop perdu, mais il y a un renouvellement naturel qui s'est fait, mais pas lié à ce déménagement en tant que tel.
Alors concrètement, quelles sont les actions que propose au cours de l'année le Spéléo Club? Il y a notamment pas mal de sorties, c'est ça?
Oui, alors les sorties, il y a des sorties initiation donc pour les débutants, pour ceux qui veulent découvrir. Bon, il faut savoir qu'ici en région parisienne, on n'a absolument rien pour pouvoir faire des sorties. Donc lorsqu'on sort, c'est au minimum 24 heures, voire 48 heures au plus près. Si on veut aller dans le sud, ben c'est au moins 3 jours. Sinon, ça se passe du côté de Dijon ou le Jura au plus près. Donc là, nous avons des sorties qui sont encadrés pour les gens qui veulent découvrir la pratique de la spéléo. Il y a des sorties qui se font aussi avec des enfants. Une sortie, mais ça c'est suite à la journée portes ouvertes qui a lieu au mois d'octobre. Okay. Après, on a plusieurs sorties en fonction des niveaux qui se font essentiellement, effectivement, toujours du côté de Dijon ou dans le Jura, dans le Doubs, et qui vont être destinées à des gens qui veulent se perfectionner et donc mettre en place des pratiques de techniques avec des formations qu'ils ont fait ou pas, ou qui sont en cours, ou qui veulent apprendre comme ça. Voilà, là on a plusieurs sorties avec plusieurs niveaux. Après, il arrive qu'il y ait des sorties qui se fassent sur une semaine. Et là, c'est soit dédié à des personnes qui ont déjà un peu d'autonomie, ou soit ce sont des petits stages de perfectionnement ou de découverte.
Ok, mais globalement, vous essayez de proposer pour un peu tout niveau, quoi, des débutants aux gens qui veulent aller se perfectionner sur des techniques un peu particulières.
Oui, tout à fait. Il faut que ça soit accessible à tous. Et si on ne propose que des choses un peu compliquées, entre parenthèses, ben, ça limite les autres. Ils ne peuvent pas progresser. Donc, il faut vraiment qu'il y ait tous les niveaux qui soient proposés.
On peut dire que l'activité est sur trois axes. On a le premier qui est la découverte. Donc, on s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas. Pour cela, ben, on a la journée nationale des portes ouvertes pour la spéléo et le canyon. Suite à ça, ça permet de faire des initiations. On a aussi la nuit de la spéléo où on projette des films et c'est ouvert aussi à tous les publics. Donc ça, c'est pour la partie développement de la pratique. Donc on présente et ensuite on fait des formations. En interne, bah, bien sûr, il y a les sorties. Donc les sorties, bah, c'est une activité club avec des gens de plusieurs niveaux. Donc on va avoir des sorties spéléo ou canyon qui vont être adaptées à des personnes qui sont plus ou moins débutants. Après, des gens qui vont être autonomes. Et puis ensuite, à des gens qui vont encadrer, équiper. Le deuxième axe, c'est l'axe de formation. Parce que ça, c'est important lorsqu'on fait de la spéléo ou du canyon, de le faire en toute sécurité. Donc, on a des formations en interne et on va même, si possible, aider des gens à se former à des formations nationales.
Alors, très concrètement, ces actions sorties, à quelle régularité elles ont lieu? Et puis, en termes de tarifs aussi, comment ça se passe?
Alors les sorties sont assez irrégulières dans l'année. On a surtout une grosse concentration au printemps et automne. En hiver, on peut aussi faire de la spéléo, mais ça implique d'avoir une approche dans le froid qui est des fois assez désagréable. Et en été, les gens ont plutôt tendance à avoir des vacances familiales, on va dire. Donc on essaie généralement de faire un camp assez long, une ou deux semaines, mais il y a peu de sorties individuelles sur des week-ends pendant les vacances d'été. Donc en plus des sorties, il y a aussi des entraînements qu'on fait assez régulièrement, au moins une fois par mois. Ça peut être dans un gymnase, sur un viaduc, sur des rochers en extérieur. Donc ça permet de réviser tout l'aspect technique sans avoir à consacrer un week-end complet à se déplacer loin et aller dans une grotte.
Et sur ces sorties et peut-être entraînement aussi, au niveau de tarifs, comment ça se passe du coup? Il y a l'adhésion au club et puis vous demandez une petite participation, j'imagine, pour les frais d'hiver?
Alors nous avons l'adhésion en début d'année, mais c'est une adhésion qui n'est pas très chère, une quinzaine d'euros, plus 15 ou 10 euros au niveau du club. 15 euros pour la fédération et 10 euros au niveau du club. Bon, les tarifs, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est cet ordre-là.
Ouais.
Tout à fait, c'est tout à fait accessible. Pour ceux qui veulent se fédérer, par contre, là, forcément, en termes de fédération, on dépasse la centaine d'euros avec l'assurance qui est obligatoire, qui est logique et obligatoire. Ensuite, pour les sorties en elles-mêmes, c'est à prix coûtant, c'est-à-dire que nous sommes un club. Le but, c'est de pouvoir sortir et que tout le monde puisse le faire. Donc, on partage les frais, tout simplement.
Donc, les frais, nourriture, essence, hébergement, quand il y a de l'hébergement, quoi.
De plus en plus, ouais. Le transport fait partie des postes les plus importants. Après, l'hébergement et puis donc l'alimentation.
Nous apprenons à l'instant que les deux spéléologues amateurs perdus depuis 8 jours dans une grotte en Lozère ont été localisés par les sauveteurs qui tentent maintenant de les remonter à la surface. Tout de suite les images. Ah non ? Ah bon ?
Alors, pour revenir au Spéléo Club, à quel public ça s'adresse ? Qui peut venir y participer, que ce soit en termes de tranche d'âge, d'envie, j'imagine que c'est quelque chose qui est volontairement assez ouvert, mais peut-être les gens n'ont pas cette info-là. Comment on pourrait rassurer, inviter, donner envie aux gens de venir se rapprocher du Spéléo Club?
Alors au niveau tranche d'âge, il n'y a pas vraiment de limite. On a des fois quelques enfants, surtout des enfants de spéléo, parce qu'un enfant isolé, on ne peut pas l'emmener comme ça en club sous terre. On a aussi des retraités, donc des personnes qui gardent une bonne condition physique, peuvent très bien continuer d'aller sous terre, même avec un grand âge, on va dire.
Ok, des hommes et des femmes aussi dans le club, hein, c'est important de le préciser.
Oui, on n'a pas la parité, parce que ça reste un peu masculin comme discipline, mais on a beaucoup de femmes qui pratiquent et il n'y a aucune contre-indication.
On peut même dire que le bureau du club a été 100% féminin il y a quelques années.
C'est vrai.
Au niveau justement, on parlait du bureau du club, au niveau organisation, mode de décision, pour caler toutes ces sorties, à quel endroit on va, quand on y va, comment on organise les spéléofolies, etc. Comment vous prenez les décisions? Quelle est un peu l'organisation interne du SCCM?
On va dire que tout le monde a droit à la parole. Chaque membre peut donc proposer une sortie. D'ailleurs, c'est ce qu'on incite à faire. Hein. C'est-à-dire, ce ne sont pas que les cadres qui doivent décider du quand, du comment. Non. Au contraire, chaque membre doit même faire l'organisation d'une sortie et on trouvera toujours l'encadrement nécessaire pour que cette sortie puisse se faire. Donc, c'est tout le monde. Ça, c'est important. Pendant donc les réunions, on essaye d'avoir une réunion de club à minima une fois par mois. Et pendant cette réunion, chacun peut s'exprimer. Comme disait Guillaume, effectivement, il y a des périodes plus propices. L'hiver, c'est très difficile. En spéléo, ça l'est, mais en canyon, oui, il n'y a aucune activité l'hiver. Mais à partir du printemps, oui, on essaie d'organiser et chacun peut apporter sa voix et faire des propositions.
Alors, on a parlé un peu des actions régulières, des activités et tout, mais on en a parlé rapidement tout à l'heure. Il y a aussi quelques événements sur lesquels le SCCM se mobilise. On en parlait tout à l'heure, il y avait la journée porte ouverte, c'était Spéléo Canyon, c'est ça, qui avait lieu en octobre. Comment s'est impliqué le club là-dessus? Qu'est-ce que ça vous a aussi apporté peut-être?
Alors, ce qui est important de savoir, c'est que cette journée portes ouvertes est une action du CDS 91. Alors, c'est quoi le CDS? C'est le comité départemental de Spéléo et Canyon. Sous ce comité, il y a 4 clubs. Donc, cette journée portes ouvertes, on l'a fait, on l'effectue avec les 3 autres clubs de l'Essonne.
Donc ça, c'était en octobre. Il y a eu aussi les Spéléofolies qui ont eu lieu fin novembre, me semble-t-il.
Tout à fait. Donc
là, c'était clairement
c'était pas fin novembre, c'était début novembre.
Début novembre. Ok. Là, c'était clairement porté par le club. Hein.
Là, c'était clairement porté par le club. L'idée, c'est de rencontrer d'autres personnes et d'avoir une journée entièrement ludique avec un tas d'ateliers. Ça se fait dans un grand gymnase avec 16 ateliers, plus fous les uns que les autres. Et le but, c'est de s'amuser et de rencontrer les autres fédérés. Et ça, c'est très important de pouvoir, en tout cas, de ne pas être isolé dans son coin. On n'est pas énormément de fédérés au niveau de la France, hein, déjà. Donc, c'est important de se rencontrer, d'échanger, ce qui permet aussi de parler de la technique, hein, et puis aussi de faire en sorte de faire des actions en commun.
Avec quand même une importance de la forme ludique sur cet événement, quelque chose de plutôt amusant. Enfin.
Oui, cette journée est complètement folle. Elle est folle à préparer, elle est folle à faire, un peu moins fou lorsqu'on doit ranger après, mais sur la journée en elle-même, c'est vraiment une très belle action.
Courant décembre a eu lieu aussi la nuit de la spéléo à la MJC. Peut-être vous pouvez m'en parler aussi.
C'est ça, donc la nuit de la spéléologie, c'est une soirée consacrée à la projection de films et quelquefois diaporamas dans le domaine de la spéléo et du canyon. Donc c'est une action qui a quelques années déjà. Et depuis récemment, ça a été jumelé avec Spélimage, qui est un festival de films spéléo qui a lieu dans le sud à Courthézon. Et on partage en partie la programmation de ces films, ce qui permet d'avoir des documentaires généralement de très très bonne qualité. Donc c'est des films sur la spéléo, mais c'est pas des films pour la spéléo. C'est tout à fait possible d'être complètement ignorant sur la spéléo et d'apprécier beaucoup les films. Il y a des aventures humaines, des très belles images souvent, et on peut découvrir des choses que même nous, spéléo, on connaît pas d'habitude. Il y a un peu de minéralogie, des explorations à l'étranger, énormément de sujets variés.
Et ça concerne combien de films sur la nuit, environ ?
En général, c'est de 21h à 23h minuit. Donc suivant la durée des films, on essaie de faire des courts-métrages, pas mettre des choses trop longues et ennuyeuses. Donc on va dire entre 5 et 15 films dans la soirée.
Ok. Et puis toujours dans cette optique de vouloir faire découvrir un petit peu ces activités, il y a aussi la présence du club sur les guinguettes assez régulièrement depuis un petit nombre d'années. Qu'est-ce que vous y faites ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Sur les guinguettes, on propose ce qu'on appelle un pont népalais. Donc en gros, on a un câble tendu au niveau du sol pour les pieds, une corde tendue un peu plus haut pour les mains. Et le but, c'est de traverser au-dessus de l'Yvette. Donc évidemment, on n'a pas de risque de tomber et se mouiller puisqu'on est accroché par un baudrier à la corde, donc avec un peu la reprise du matériel spéléo ou canyon. Et pour redevenir de cette traversée de l'Yvette, on a une petite tyrolienne aussi, avec un départ depuis un escabeau appuyé contre un arbre.
Et ça, c'est une activité qui fonctionne très 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 bien. Très régulièrement, il y a la queue devant le stand, quoi.
Oui, il y a énormément de public en général, surtout des enfants d'ailleurs, que les parents envoient, mais sans les suivre derrière, ce qui est toujours un peu dommage. On essaie de les inciter à passer, mais souvent sans résultat.
Très bien, je crois qu'on a brossé un petit peu la présentation du SCCM.
Si je peux me permettre une autre action. Qui me semble vraiment importante. On organise chaque année une initiation pour des personnes non-voyantes. Alors, initiation soit en spéléo, soit en canyon, on alterne d'une année sur l'autre. Donc, on essaye pour 5 personnes, ça nécessite à peu près pour 5 initiés, une bonne dizaine de cadres.
D'accord.
Alors, donc, c'est une action qu'on fait en début septembre.
Et là, du coup, j'imagine que c'est assez riche en termes de, justement, utiliser les autres sens pour la spéléo. Je pense au toucher, peut-être, notamment.
Alors, tout à fait, ça nous apprend autant que ça apprend à ces personnes. Effectivement, on est toujours très surpris de la facilité de progression. En fin de compte, on s'aperçoit que lorsqu'il manque un sens, on arrive, facilement ou pas, hein, ça, chacun a son histoire bien entendu, mais on arrive à combler ce manque. Et par le toucher, par le bruit, par le vent, les autres sens prennent le relais. C'est vraiment très riche.
Ah bah pour conclure peut-être, Marie, qu'est-ce que tu dirais pour finir de séduire les gens qui aimeraient tester la spéléo ou le canyoning et qui n'osent pas encore franchir le pas, et puis peut-être donner quelles sont un peu les infos pratiques, les contacts pour les gens qui veulent vous rencontrer.
Moi, je dirais que les gens qui sont vraiment intéressés, qui veulent par curiosité essayer, il faut pas avoir peur d'aller sous terre. Bon, évidemment, il y a toujours ceux qui sont un peu claustrophobes. On peut pas faire grand chose si ce n'est que de se contrôler, essayer de se contrôler. Le vertige, oui et non, parce que quand on est dans le noir, on n'a pas les mêmes sensations qu'en plein air. Mais il faut tenter l'expérience. C'est particulier. Oui, c'est un peu froid, c'est un peu humide parfois, mais ça vaut le coup d'aller voir sous terre ce qui se passe de moins sous nos pieds. Il y a un autre monde avec des belles cavités, des belles concrétions et avant de dire vous êtes fous d'aller faire ça, non, venez d'abord essayer et après vous verrez que effectivement il y a des choses qui sont très intéressantes, que ça soit aussi bien en spéléo qu'en canyon. Le canyon, ce n'est juste qu'une grosse randonnée aquatique, on va dire, mais vraiment c'est bien. Et l'ambiance dans le club, elle est très sympa. On a beaucoup de jeunes, hein. Faut pas croire qu'il n'y ait que des personnes de plus de 60 ans ou des retraités. Il y a aussi des jeunes d'une trentaine d'années. Ça donne envie, ça pousse les autres aussi de le faire, parce que si on se dit qu'il y a des jeunes, c'est que c'est accessible à tous. Après, au niveau des contacts, il y a un site dont je n'ai pas en mémoire l'adresse.
Pour trouver le site, vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez SCCM Spéléo et ça devrait le faire.
Voilà, merci Guillaume. Et donc là, pour le coup, on a toutes les informations. Il y a un résumé des activités qui sont faites avec des photos que Guillaume a bien... Guillaume est spécialiste du web, il met ça à jour régulièrement. Il y a les contacts, il y a les activités, il y a les tarifs, il y a plein de choses, plein de conseils, plein d'idées. Surtout, n'hésitez pas à venir faire un petit saut jusqu'au club. Je voulais aussi préciser une chose, c'est que ce ne sont pas des petites sorties de deux jours, mais là prochainement, et ça se fait tous les ans dans la mesure du possible, il y a un camp Vercors qui se fait. Là, il faut être un petit peu fêlé, parce que là, c'est partir une semaine en autonomie totale sur le plateau du Vercors, tirer les poulkas pendant quelques heures avec une température plus ou moins froide. Tout ce qui est toilette et autres, on oublie. Ceux qui préfèrent l'hôtel, vous restez chez vous. Mais sinon, c'est très sympa, il y a des beaux paysages. On est un peu coupé du monde pendant une semaine, mais ça fait du bien de déconnecter et de vivre très simplement pendant 8 jours. Voilà.
Yes, donc les bonnes adresses, c'est sccm.devilfish.fr. Et puis sinon, n'hésitez pas aussi à venir vous renseigner à la MJC. Merci à vous trois d'avoir été dans le studio pour nous présenter le Spéléo Club.
Merci à toi.
Merci.
Et puis bonne continuation et bonne saison.
Merci.
Allez, c'est parti mon pote. Non, attends.
Oh, atterrissage un peu musclé, mais faut dire que la corde, on l'avait oubliée. Qu'à ça nous tienne avec mon polo, nous voilà partis dans les boyaux.
BLP Radio.